Ma radio.
Bonjour et bienvenue sur Ma radio. Nous sommes le jeudi 20 mars 2014 et il est 18h. À la veille du printemps, nous sommes de retour pour encore plus d'informations, de culture, du beau temps et du bonheur. Avec vos chroniqueurs préférés qui ne loupent jamais leur rendez-vous musical, people ou encore technologique. Du sérieux, du décalé, du surprenant, de l'émotion, de l'innovant. Et c'est pour vous sur Ma radio. Et tout de suite, l'invité du jour.
L'invité du jour.
Bonsoir Damien Péclet, cadre technique de France 3 en Franche-Comté du coup.
C'est ça.
Du coup, je voulais savoir quel a été votre parcours professionnel.
Alors mon parcours professionnel, j'ai commencé avec un bac électronique que j'ai fait à Morteau. Ensuite, j'ai intégré le BTS audiovisuel de Montbéliard.
Ah bah, comme quoi.
Voilà, comme quoi, ça mène à tout. Où je suis venu ici en tant qu'étudiant pour la technique d'ingénierie, voilà, anciennement exploitation vidéo. J'ai ensuite continué mes études dans une école d'ingénieur du son à Paris. Et ensuite, je suis rentré sur le marché du travail après un séjour de 10 mois à l'armée au CIRPA régional de Besançon.
D'accord.
Voilà, qui était le service régional audiovisuel des armées. Voilà.
Et du coup, la télévision, est-ce qu'elle a été pour toi une vocation depuis quelques années, ou c'est venu après avec la suite par le temps?
Alors en fait, c'était un choix de carrière qui finalement s'imposait. Ayant fait des études en vidéo plus des études en son, il semblait tout à fait naturel qu'à un moment donné, je me rapproche de la télévision pour mixer mes deux compétences. Voilà.
Quelles sont donc les qualités requises pour exercer cette fonction de cadre technique?
Quelle qualité? Je pense qu'il faut principalement faire confiance aux techniciens avec lesquels on travaille, puisque je me vois un peu comme une sorte de chef d'orchestre qui se repose énormément sur les compétences d'une dizaine de corps de métiers techniques pour fabriquer et réaliser les émissions qu'on nous demande.
D'accord. Voilà. Du coup, ça consiste en quoi précisément?
Précisément, c'est répondre à des cahiers des charges d'émissions que nous demande la rédaction. En fonction de thèmes ou d'événements, ou bah, de thèmes comme en ce moment les élections, tout simplement,
hein,
qui vont nous occuper ce week-end et le week-end prochain, et d'essayer de répondre en fait, avec les effectifs et les moyens techniques que nous avons, auquel cas, soit nous faisons appel à d'autres stations pour nous aider, ou soit nous louons du matériel, ainsi de suite, mais voilà, tout ça avec un cahier des charges strict.
Du coup, le travail d'équipe est un facteur essentiel, si j'ai bien compris.
Ah, c'est même l'essentiel même du métier, ouais. Voilà.
Est-ce que le monde de la télévision est-il toujours en évolution?
Oui, technologiquement.
Technologiquement,
oui. Ça n'arrête pas, et c'est bien comme ça. Et je pense que...
Des grands enjeux techniques ces prochaines années ou...
Les grands enjeux techniques, oui, pour nous, c'est pas mal de choses. C'est s'adapter le plus possible à l'évolution avec l'arrivée d'Internet voilà, et la contribution à fabriquer de plus en plus de choses aussi pour Internet. Mm-hmm. De mettre les choses de plus en plus en disponibilité aussi pour les téléspectateurs et les internautes. Voilà. Et de suivre aussi l'évolution technologique par rapport à la fabrication, et d'aller plus vite, de plus de points directs, d'être au plus près des gens aussi sur le terrain. Et voilà. Donc c'est beaucoup de choses.
D'accord.
Avec l'arrivée de la téléphonie, avec l'arrivée de la 3G, avec l'arrivée des transmissions SAT, que nous maîtrisons depuis quelques années maintenant, mais voilà, beaucoup de choses comme ça.
Et par rapport à Internet aussi, quel regard tu portes sur l'émergence des nouveaux supports de diffusion sur le net?
C'est très bien, c'est une manière en fait... très particulière de toucher en fait les gens, c'est une autre manière, c'est une télévision qui s'apprend et qui s'écrit, voilà, c'est-à-dire qui est en train de s'écrire, et on commence à discerner quelques codes, mais grâce en l'occurrence à des webmasters qui travaillent avec nous maintenant, et qui maîtrisent assez bien l'environnement, et une écriture aussi journalistique qui est adaptée au support, voilà.
D'accord. Est-ce que maintenant tu as déjà d'autres projets professionnels?
D'autres projets professionnels? Non, déjà, je suis très bien, voilà, Besançon, l'équipe me plaît. Ça fait 2 ans et demi que je suis sur ce poste.
D'accord.
Et voilà, j'ai encore un peu de travail pour envisager autre chose.
Eh bien, on te souhaite plein de réussite et une bonne continuation.
C'est gentil, merci, et bonne réussite à vous bientôt.
Eh bien, merci beaucoup. Au revoir, Damien.
Au revoir.
Yeah. Yo, this is a stick up.
Stick up.
Stick up.
We're in your town.
Town.
Flying around. Trying to save me from the crowd. But I keep being in the clouds. I'm sitting on the throne. Damn right I wear the crown. It's the way that I was raised. Brought up to throw
selfies, but I ain't talking pictures. The bartender is cute, boy, you better. I am home, it's my time, give me room, let me shine. I'm so high off alive, all my dreams came alive. My reflection is me, and I like what I see. Give me room, let me shine, let me shine.
There's nothing in my cup. Wanna drink like my last is my first.
Grab a glass, place it first.
Slow the beat down and flip it in reverse.
Flip it in reverse. Serve for me.
No time to converse. Keep my mind on my work. I'ma grind till it hurts. Oh. Party life, and it's a party song, and I'm already gone. Yeah, I'm smashed like broken glass. So if you drinking with us, then you fuck
up. Now put your hands up, homie.
It's a stick up.
Wave them from side to side. Shots like paparazzi, but I ain't talking pictures.
If the bartender is cute, boy, you better tip her.
I am home, it's my time, give me room, let me shine. I'm so high off alive, all my dreams came alive. My reflection is me, and I like what I see. Give me room, let me shine, let me shine.
Your life, I fuck about your style. This shit is up to me, and I'm ahead of you by
let
now.
Me shine.
Let me shine.
Let me shine.
I give a fuck about your life. I fuck about your style. This shit is up to me, and I'm ahead of you by now.
You gotta let it shine, little mama, gotta shine, 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 shine.
C'était Ain't No Love, oulala, quelques problèmes en anglais, de Shine. Et maintenant, la chronique cinéma avec Pierre. Bonsoir Pierre.
Ma radio.
L'émission ciné. Alors nous avons retrouvé Pierre, bonsoir.
Bonsoir Anaïs, ça va?
Non, attends.
Comme de toute façon tous les chroniqueurs vont te demander comment toi tu vas, moi je vais plutôt te demander si tu as profité du printemps du cinéma pour aller voir plein de films.
Alors là, pas vraiment en fait, mais c'est pour ça que tu l'as Pierre, non? Alors ouais. De quoi vas-tu nous parler ce soir?
Alors justement ce soir, un film sur le passé, l'autre sur le futur, un film qui ne vaut à mon sens pas vraiment le coup de se déplacer en salle, d'autant que c'est la crise tout ça, hein.
Ouais.
Et l'autre qui peut faire office en temps de crise justement d'antidépresseur intelligent et poétique, pour peu qu'on fasse preuve d'un peu de tolérance.
Eh bien allons-y.
Bon, alors
nous avons quelques problèmes techniques, du coup nous allons enchaîner sur...
Ouais, donc du coup, je parlais d'un film qui, sur le papier, étale les champs. George Clooney, Matt Damon, Kate Blanchett, Bill Murray, John Goodman et Jean Dujardin qui partent à la poursuite des nazis pour jouer les Robin des Bois protecteurs du patrimoine artistique. Franchement, ça donne envie, hein.
Plutôt, ouais.
Ouais. On parle bien sûr de Anaïs.
Monuments Men.
Monuments Men, oui, de et avec George Wattles Clooney. Le film est adapté du film éponyme de Robert M. Hetzel, sorti en 2009, qui relate la véritable mission d'un petit groupe d'hommes qui, dans les derniers mois de la guerre, se mettent à la poursuite des œuvres dérobées par les soldats sur leur chemin du retour en Allemagne. Directeur, conservateur de musée, artiste, architecte, historien d'art, bref, tout sauf des soldats en formation, qui décide de se jeter au cœur du conflit pour tenter de protéger une partie des pièces les plus précieuses de l'humanité en les restituant à leurs propriétaires légitimes.
D'accord.
Voilà. Et malheureusement, on n'a pas l'extrait, et malheureusement aussi, entre incohérences narratives, inexactitudes, voire modifications historiques, récits trop elliptiques et décousus des faits, hésitant constamment entre chasse au trésor façon Indiana Jones, humour plus ou moins décalé et sérieux dramatique, Monuments Men n'a guère d'autre mérite que celui de mettre en lumière un épisode assez méconnu, ou du moins secondaire, de la Seconde Guerre mondiale, et de rappeler les bénéfices que les générations actuelles doivent encore à ce groupe d'hommes qui a récupéré bon nombre d'œuvres d'art.
Certes, oui.
C'est dur de meubler. Surprenante réalisation d'un Clooney qui nous avait habitués à mieux avec Good Night and Good Luck, Les Marches du Pouvoir par exemple, Monuments Men est un peu, pour paraphraser le magazine Première, à l'image du George et de son café, stylé et un peu désinvolte.
Ah bah George Clooney, hein. Il faut aller voir.
Et ouais, mais même...
oui. ça a l'air bien pourtant, non ?
Ouais, non, mais qu'on soit bien d'accord, c'est loin d'être un navet absolu, hein, et le film offre même par moments de belles séquences, mais l'ensemble est trop inégal pour qu'on en ressorte satisfait, et le gros travail de compensation musicale d'Alexandre Desplat, n'y change malheureusement rien.
Non.
Voilà. Et finalement, si je devais utiliser une expression sportive, je dirais volontiers qu'ils ont, tu sais, un peu mangé la feuille de match. Et bon, tant pis Anaïs, tu n'auras pas droit à un extrait d'Indy là, je sais que t'en mourrais d'envie pourtant.
Oh, je suis déçue là.
Mais oui, tu disais une chanson qui correspondait assez bien au film, c'est qu'au bout d'un moment ça tourne dans le vide en fait. Hein.
D'accord.
Et voilà. Et, mais du coup, la prochaine fois, promis, tu l'auras ton extrait. Alors, tu me diras, et tu aurais raison de me le demander, si le film se veut un récit d'une histoire vraie, que les données historiques ne sont pas respectées, que cette tranche d'histoire méconnue, mais sur le fond, si cette tranche d'histoire méconnue est sur le fond passionnante, mais moyennement palpitante sur la forme, que le scénario est décousu, trop elliptique et que le tout tourne un peu dans le vide, que reste-t-il alors ? Eh bien, peut-être le plaisir, toujours constant, de retrouver un John Goodman assidûment sympathique et amusant, un Bill Murray charismatique et étonnamment émouvant, et puis quand même les poids lourds que sont les copains de café Clooney et Damon, qui ont été par le passé et seront probablement dans le futur mieux mis en valeur.
Donc un film plutôt à recommander ou plutôt à ne pas recommander ?
Non, à moins de n'avoir vraiment que du temps libre et les finances appropriées, pas vraiment. Et voilà, comme il n'y a pas grand-chose de plus à en dire, on va passer au film suivant qui vaut un peu plus le coup. Ouais.
Mais alors, quel est ce film ?
Eh bien, c'est un film qui est sorti en France hier, mercredi. Ça s'appelle Her, H-E-R, ou bien Elle, comme on dit chez nos amis québécois. C'est l'histoire de Théodore Twombly, un écrivain public pour un site internet du Los Angeles du futur. Un futur proche, épuré et apaisé. Un futur pas si lointain dans lequel la technologie a envahi notre quotidien jusque dans ses plus petits détails et qui a rendu inéluctable la dépendance au smartphone, aux emails publicitaires ainsi qu'à l'oreillette Bluetooth. Et donc, bien qu'il écrive les lettres d'amour des autres, Théodore est lui-même en pleine procédure de divorce et vit au ralenti, hanté par les images d'un bonheur évanoui et le souvenir de son amour d'enfance perdu. C'est donc presque tout naturellement qu'il se noie quotidiennement dans les nouvelles technologies pour oublier sa peine et s'éloigner le plus possible de ce monde réel, jusqu'au jour où il fait l'acquisition d'un nouvel operating system. Operating system, dernier cri, qui communique avec lui via une voix féminine à l'intelligence évolutive. Et là, Anaïs, je crois que c'est le moment de nous faire une démonstration de tes compétences anglicistes bien connues. Qu'est-ce que ça veut dire, operating system ?
Système d'exploitation.
Ouais. Bon. Ouais, Windows, tout ça, voilà. Et donc oui, bravo, on me dit dans l'oreillette que c'est une bonne réponse. Et donc, en lançant le système, Théodore fait la connaissance de Samantha, une voix féminine, douce et suave, intelligente, intuitive et étonnamment drôle, dont il va progressivement tomber amoureux. Voilà, normalement, hein, on se met un peu dans l'ambiance, il y a un peu de musique, voilà. Et cette espèce de rencontre insolite qui va se produire, Samantha va effectivement vouloir à tout prix apprendre le monde humain, de la perception du temps et de l'espace à la complexité des sentiments. Elle soulève des interrogations métaphysiques concernant notre humanité, mais également des questions éthiques sur l'intelligence artificielle. N'est-on finalement pas humain si l'on éprouve des sentiments ? Est-on dépourvu d'humanité sans existence charnelle ? Une relation amoureuse privée de contact physique est-elle possible ? autant de problématiques philosophico-dualistes interrogeant le couple matière et esprit qui peuvent être déclenchées par le visionnage de ce qui est peut-être le premier film romantique dans lequel on ne voit qu'une moitié de couple.
Donc un film assez moderne sur les nouvelles technologies qui peuvent poser des questions,
ouais,
c'est vrai.
À la fois ancien avec un angle moderne, je dirais. Ouais. En fait, comme tous les hommes et toutes les femmes, Samantha rit, plaisante, elle se vexe, elle pleure, elle fait des crises de jalousie et se pose même des questions existentielles. Seulement, si elle est une confidente précieuse, une oreille attentive et une amie compréhensive, cette anthropomorphisation technologique n'en est pas moins intrusive. Elle sait instantanément tout de Théodore et de sa personnalité en jetant un coup d'œil à son disque dur ou en scannant ses emails. Elle rappelle ainsi les mises en garde contre l'omniprésence de la technologie d'un George Orwell ou d'un Isaac Asimov par exemple, même si bon... ce n'est finalement pas le propos principal de ce film et que l'invasion de la vie privée n'est que très vite dénoncée. Non, ce quatrième long métrage de Spike Jonze ne constitue pas tant une dystopie anti-technologique qu'une réelle mise en lumière de la solitude d'un homme dans un monde d'hypercommunication, soulignant ainsi le paradoxe déjà naissant aujourd'hui de l'isolement de l'individu dans une société où la technologie est censée faciliter les relations sociales. Le tout à travers une romance virtuelle traitée à la façon de Sofia Coppola dans Lost in Translation par exemple.
D'accord.
Voilà. Et donc après dans la peau de John Malkovich en 1999, adaptation en 2002 et Max et les Maxi-Monstres en 2009, l'univers de Spike Jonze s'est peuplé de doubles fantasmés et de créatures imaginaires grâce auxquelles des êtres esselés s'échappent du monde réel. Le but de Spike Jonze n'est donc pas vraiment de deviner à quoi ressemblera notre avenir, mais plutôt d'interroger et d'approfondir les questions que pose dès aujourd'hui notre rapport à la technologie. En pause quand même.
Bah oui, c'est en pause.
Oui.
C'est en plein dans notre contexte.
Merci Anaïs. En creux de notre rapport à la machine, ce sont donc surtout les rapports humains qui font la matrice de ce film, qui se situe quelque part entre 2001, l'Odyssée de l'espèce, Blade Runner, Wall-E, AI, intelligence artificielle, voire même peut-être Frankenstein. De ce film, on se souviendra qu'en plus de la réalisation, Spike Jonze a signé le scénario pour lequel il a remporté un Oscar le 2 mars dernier. Mais on retiendra aussi la performance remarquable de Joaquin Phoenix. Tu te rappelles de Joaquin Phoenix ?
Oui, la dernière fois. Mais...
c'était le méchant dans Gladiator,
ouais.
Méchant commode.
Oui.
Ouais, et là, il joue presque seul pendant la majeure partie du film, puisque la voix de sa compagne informatique, incarnée par Scarlett Johansson, a été rajoutée en post-production. Performance remarquable également pour l'adite Scarlett Johansson, qui, sans jamais apparaître à l'écran, a tout de même remporté le prix d'interprétation féminine au 8e Festival international du film de Rome en novembre dernier.
C'est fou ça quand même. Hein. Comment
bah, c'est impressionnant. Ouais. Bah, tout est dans la voix en fait.
D'accord.
Voilà. Le casting physique, enfin visuel, est complété ensuite de Rooney Mara, d'Olivia Wilde, et c'est vers le groupe Arcade Fire que Spike Jonze s'est tourné pour la composition musicale, le réalisateur étant un ami de longue date du groupe canadien. Voilà, donc Romance impossible à l'eau de rose, spleen d'une époque aliénante, touchant, dérangeant, bien que parfois un peu niais, Her offre une œuvre poétique et formellement réussie, mais aussi une vraie réflexion sur notre temps. Et même si le film a rencontré de façon unanime un accueil favorable de la part des critiques professionnelles et publics finalement dans les pays anglophones, on va citer pour conclure l'Express, qui fait preuve d'une sévérité compréhensible mais regrettable. Deux points, ouvrez les guillemets. N'est qu'une histoire d'amour impossible, inutilement étirée, banale dans le fond, magnifique dans la forme. En ce qui me concerne, je suis d'accord avec la seconde partie.
Bah dis donc, ça a l'air pas mal tout ça. Ça donne envie d'aller le voir en tout cas.
Bah, c'est une bonne idée. En attendant, c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, vous retrouverez, avec des extraits cette fois, l'immense Romain Mollet, dont le talent n'a d'égal que sa ferveur bien connue pour le FC Sochaux-Montbéliard. Nous, on se retrouve dans 15 jours et d'ici là, n'oubliez pas, comme le disait Quentin Tarantino, Anaïs, vive le cinéma.
Vive le cinéma. The king of
Ma radio.
Tout de suite, l'émission Chronique du Geek avec Florentin. Bonsoir Florentin.
La Chronique du Geek.
Bonsoir Florentin.
Bonsoir Anaïs. Alors, ce soir dans la Chronique du Geek, on va essentiellement parler de jeux vidéo, puisque je vais revenir assez rapidement sur les plusieurs actualités qui auront marqué la moitié de ce mois de mars, et on va parler après plus en détail d'un jeu en particulier, et ce jeu c'est Tearaway. Mm-hmm. Alors, sur le côté de sur l'actualité, je pense que tu connais South Park,
je connais les épisodes, oui.
Oui, voilà. Et ben, figure-toi qu'ils ont sorti, je pense qu'un bon nombre d'auditeurs le savent déjà, un jeu vidéo. Et ce jeu vidéo, il est sorti le 6 mars. Et je pense qu'on peut déjà dire que voilà, c'est le jeu vidéo qui aura marqué ce mois de mars. Puisqu'il a été très très bien accueilli, autant par les joueurs que par les critiques. Et donc c'est les studios Obsidian et les créateurs de la série, donc Trey Parker et Matt Stone, qui nous présentent un RPG, un réel RPG, donc Role Player Game. D'accord. Où on crée notre personnage, on le fait évoluer dans des combats au tour à tour, avec tout l'univers de South Park et la sauce South Park, qui est, voilà, quoi, c'est... Ils détournent complètement les codes du RPG, et on retrouve toutes les références aux 17 saisons de South Park.
Ah oui, carrément, toutes les saisons. Ouais.
Ah oui, oui. D'accord. C'est vraiment un jeu complet. On a vraiment le sentiment de vivre en fait un épisode de South Park en un peu plus long, puisque le jeu dure une vingtaine d'heures. Alors, autre nouvelle qui est tombée il y a plusieurs jours et aussi au début du mois, je vous ai parlé dans la dernière chronique d'une info qui avait un petit peu fait vibrer le monde des gamers sur Watch Dogs. Eh bien cette fois-ci c'est bon, Ubisoft nous l'annonce officiellement, enfin on savait déjà qu'il allait sortir bien sûr, mais on a la date exacte de la sortie de leur prochain jeu, Watch Dogs, donc il sortira le 27 mai.
Ah bah tous les ça fans de Watch Dogs doivent être contents.
Voilà, oui, oui, eh ben, en plus oui, je vous l'avais expliqué, les ouais. Fans sont très nombreux. Et pour accompagner la bonne nouvelle, le développeur a aussi publié un nouveau trailer de son blockbuster. Mais c'est pas plus tard qu'il y a deux jours que Jonathan Morin, le directeur créatif du jeu, nous a appris que la durée de vie du jeu serait entre 35 et 40 heures, ce qui est très bien, je trouve, comparé à ce qui se fait un petit peu aujourd'hui en jeu vidéo sur console de salon. Et je pense qu'il faudra une bonne centaine d'heures aussi pour finir le jeu à 100%, ce qui est plutôt très très bon, ce qui annonce... Voilà, c'est une bonne durée de vie du jeu, ça va être sympa, je pense.
Et du coup, le test de notre rubrique geek, ça va être quoi ce soir ?
Alors, ce soir, je vais vous parler d'un jeu qui, dès qu'on me l'a présenté, m'a tout de suite énormément intéressé. Ce jeu, c'est Tearaway, c'est les studios Media Molecules, donc c'est ceux qui ont créé et développé Little Big Planet, donc qui est déjà une grosse pointure de... sorti exclusivement sur PS3, qui a énormément plu, autant aux joueurs qu'à la critique. Et ce jeu est sorti sur PS Vita, donc c'est la console portable de Sony, la dernière console portable de Sony.
C'est quoi la caractéristique de cette console
je dirais que c'est la console portable qui n'a pas marché, en fait, comparé à Nintendo ou... Nintendo, en fait, il n'y a plus que Sony et Nintendo qui sortent des consoles portables. Et celle-ci n'a vraiment pas fonctionné en Europe, un petit peu en Asie, mais c'est vraiment pas une réussite. Donc il y a très peu de jeux, en fait, hein, sur cette console, surtout des mini-jeux, des jeux indépendants. Et voilà, je trouve que c'est un très très bon, pari de la part des studios Media Molecule d'avoir osé ce jeu, puisqu'il est, totalement créatif.
Et il consiste en quoi, du coup, ce jeu ?
Voilà, alors, c'est... Dès l'introduction, on nous introduit comme un joueur... nous, joueur, on est directement...
On est dans le jeu, en fait, c'est un peu ça. Ouais,
on est intégré au jeu.
On fait le rôle.
Voilà. Ouais. On a un rôle à nous et on dirige aussi un petit personnage qui s'appelle Yota.
Ouais.
Et qui va, en fait, qui doit nous apporter un message. En fait, le jeu nous intègre en tant que personnage à part entière. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ça renforce l'interactivité et l'immersion qui est déjà pleinement exploité. L'interactivité de la console elle-même est pleinement exploitée. C'est quelque chose qu'il faut souligner parce que ça n'a pas été souvent fait sur les autres jeux proposés sur cette console. Voilà, donc c'est vraiment un jeu, c'est un jeu complet. J'ai pas encore pu le terminer, mais il est aussi bien sur le gameplay que sur l'esthétique, qui est énormément travaillée. Ça, c'est propre au studio Media Molecule.
C'est avec du papier, c'est ça, non ?
Voilà, ouais. c'est ça. C'est exactement ça. Tout l'univers papier, est pensé comme si c'était en papier. Et enfin, la musique qui termine parfaitement le jeu. Si vous avez l'occasion d'essayer sur PS Vita, je vous le conseille fortement.
Bah oui, pourquoi pas. En tout cas, ouais, ça donne envie, une bonne esthétique, des bonnes qualités, caractéristiques. Donc bah, merci Florentin.
Bah, il n'y a pas de quoi.
Et à bientôt.
À la prochaine.
Et tout de suite, l'instant décalé avec Margot Malo.
L'instant décalé.
Bonsoir Margot.
Salut Anaïs, comment ça va ?
Ça va et toi ?
Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu.
Oh oui.
Bon alors je t'explique, aujourd'hui c'est toi qui vas décider de ma chronique. Je sais pas trop par quoi commencer, donc c'est toi qui as toutes les cartes en main. Donc attention, ce choix va être crucial.
Crucial.
C'est la chronique décalée, bon, j'ai envie de dire crucial, je dis crucial. Alors, est-ce que tu préfères le bacon ? Attention, c'est une question très importante. Est-ce que tu préfères le bacon ou la pizza ?
Le bacon.
Le bacon. Alors que Méline, ne s'inquiète pas, je ne vais pas lui piquer sa chronique culinaire. Quoique j'aurais bien aimé, mais enfin bon. Alors le bacon, tu m'arranges pas du tout, mais c'est pas grave. On va faire le bacon, bon. On est des fous, on va faire le bacon. Alors, est-ce que tu as des problèmes pour te réveiller ? Je suis sûre que tu as des problèmes pour te réveiller.
C'est dur,
on est d'accord. Ouais. Eh bien écoute, il y a une nouvelle, il y a une compagnie américaine, Oscar Mayer, je le fais bien, qui a eu l'idée d'inventer un nouveau réveil. Donc un réveil que tu branches à ton smartphone. Et donc, qui essaie de te réveiller à une certaine heure quand tu le branches. Mais alors, l'idée révolutionnaire qu'ils ont eue, c'est-à-dire que c'est un diffuseur qui se trouve dans ce petit réveil que tu adaptes à ton smartphone. Et donc, quand ton réveil sonne, il y a une magnifique odeur de bacon qui s'en sort. Et ça te permet de te réveiller, on va dire, un peu plus, tu vois ce que je veux dire ?
Ils apportent le bacon en même temps ou
Non, alors ils n'ont pas encore réussi à apporter le bacon en même temps, donc c'est un petit souci. Bon, alors pour l'instant, je suis d'accord, l'odeur n'est pas très ragoûtante au réveil, c'est peut-être pas terrible en se réveillant à 7h du matin. Mais ils sont en train de travailler pour éventuellement faire des diffuseurs qui sentiraient le café, les croissants chauds, tu vois, tout ce genre de trucs qui te donneraient peut-être plus envie de te réveiller. Ou alors de manger. Mais bon, si tu as envie de manger, tu te réveilles, donc du coup, ça peut marcher. Donc du coup, voilà. Bon, du coup, est-ce que tu aimes la pizza ? Donc là, tu me réponds oui.
J'ai pas le choix.
Non, là, t'as pas le choix.
C'est alors, je vais dire oui. Je vais dire oui.
Ok. Donc maintenant, je vais encore parler un peu de smartphone et je ne pique pas non plus la chronique du geek. Hein.
Ouais.
Non, mais voilà, non, je précise, je veux pas avoir d'embêtement avec tout le monde. Donc du coup, maintenant, si t'as envie de commander une pizza, tu peux le faire sur Internet, sur ton iPad, sur ton smartphone. Mais alors, il y a une nouvelle marque de pizza qui a monté un truc. C'est-à-dire que tu arrives dans la baraque à pizza, c'est une baraque à frites, mais c'est pas grave. Et donc, en fait, il y a un grand écran et c'est toi qui composes toi-même ta pizza. C'est-à-dire que c'est toi qui étales, c'est virtuel, hein, mais c'est toi qui étales ta sauce tomate, c'est toi qui fais ta pizza de A à Z, et ensuite donc tu la personnalises comme tu veux, et ensuite tu l'envoies et la pizza est faite, mais à ton goût. C'est une pizza un peu à ton image, quoi, tu vois ce que
super
je veux dire.
Ça.
Mais ça commence à aller très loin, c'est un peu dangereux, donc voilà.
Bah merci Margot pour toutes ces informations.
Avec plaisir, et puis à bientôt.
Et à la semaine prochaine.
Ça marche,
salut, ciao. Tout de suite... un prochain chroniqueur.
Maintenant, les infos.
Les infos avec Quentin, un nouveau chroniqueur qui vient aujourd'hui. Bonsoir Quentin.
Bonsoir Anis, ça va ?
Ça va, ça va.
Alors, j'aimerais tout d'abord adresser un message donc à tous les lycéens, en particulier les terminales. Donc aujourd'hui, comme tout le monde le sait ou le sait pas, à minuit, ce sera la clôture des inscriptions sur le site APB, donc admission post-bac. Donc vous avez donc jusqu'à ce soir pour rentrer au V. Donc dépêchez-vous, il y a le feu.
Ah, faut se dépêcher.
Ouais. Donc maintenant, PSA Sochaux. Suite au lancement en avril 2014 de la nouvelle Peugeot 308 SW, la création de 600 postes a été annoncée. Donc il faut savoir que la nouvelle Break enregistre déjà 60 000 commandes, donc ce qui est déjà énorme avant la sortie. Et donc en fait, oui, quand on est couronné Car of the Year 2014, il faut quand même assurer un minimum. Donc c'est vrai que 1563 véhicules par jour, c'est quand même pas de la rigolade. Hein. Donc de plus, on a la 205 GTI qui s'offre un tour de France à l'occasion de son 30e anniversaire. Donc 300 000 modèles qui ont déjà été produits entre 1984 et 1994 sur les sites de Sochaux, Madrid et Mulhouse. On aura donc une réunion sympathique entre passionnés pour fêter l'anniversaire de cette Peugeot mythique. Ce tour anniversaire divisé en 12 étapes s'achèvera en septembre 2014 devant le musée de l'aventure Peugeot, là où bien sûr son départ symbolique a été annoncé. Assise Dudoux, l'agresseur d'un contrôleur SNCF est jugé depuis ce matin pour tentative de meurtre. 11 coups de couteau pour 70 euros, c'est trop, hein, l'homme risque jusqu'à 30 ans de réclusion. Donc comme quoi un simple billet de train, ça peut revenir cher. Belfort, un carnaval aux couleurs du cirque et de la fête foraine. Avec 1200 cavaliers et une dizaine de chars décorés par des bénévoles, le défilé attend beaucoup de monde. Rendez-vous place de la République. Et enfin, pour finir, sport, le franc-comtois Arthur Vichot termine en 3e position. Donc, le coureur de FDJ.fr a remporté au sprint la 8e et dernière étape du Paris-Nice ce dimanche, au terme d'une boucle de 128 km autour de Nice. Donc chapeau.
Eh ben merci Quentin pour cette première chronique sur les infos. Et à bientôt.
À bientôt.
La météo.
Et maintenant, du beau temps, du mauvais temps avec Violaine. Bonsoir Violaine.
Bonsoir Anaïs. Eh bien demain, pour ce début de printemps, il fera beau une bonne partie de la journée. Mais quelques averses sont à prévoir en fin d'après-midi et dans la soirée. Les températures iront de 8 à 18 degrés. Pour samedi, ce sera triste puisque de la pluie est prévue toute la journée. Les températures environ 10 degrés, mais attention, un vent soufflera à plus de 50 km/h. Quant à dimanche, le ciel sera couvert toute la journée. Il y aura peut-être quelques averses, mais elles seront faibles et les températures seront de 5 degrés.
Merci Violaine.
De rien.
We are friends. Stars, asterisk. We are friends with an asterisk. Seeing you tonight made my insides twist. This feels bizarre. This is bizarre. Asterisk. I told you.
Vous venez d'écouter Birds with World, thank you.
120 secondes, people.
Et tout de suite, la chronique People avec Cassandra. Bonsoir Cassandra.
Salut Anaïs et salut à tous. Alors pour commencer la chronique, on va parler un peu de radio. Ça changera. C'est Laurent Ruquier donc, qui dit ciao à Europe 1 après 15 ans de loyauté tout de même et qui va dire bonjour à RTL en succédant à Philippe Bouvard à l'animation des Grosses Têtes. Alors ça va faire bizarre après 40 ans de service. Et donc ce changement se fera en fin de saison, autrement dit vers septembre, à peu près. Donc on va pouvoir l'entendre à ce moment-là. Et donc il y a déjà Pierre Binouze, je vais arrêter. Benouchou, Stevie et Jérémy Michalak qui devraient le rejoindre. Donc c'est un sacré chamboulement qui arrive. Et pour un deuxième chamboulement, il y a aussi au niveau musical le premier concert des Rolling Stones qui est annulé. Donc après avoir appris la mort malheureuse de la femme de Mick Jagger, et donc du coup son groupe sous le choc se sent un peu non apte à reprendre le concert tout de suite. Donc voilà. Et apparemment c'était dû à un stress, donc elle s'est suicidée. On ne saura jamais vraiment la vérité, disons que voilà, elle avait à peu près, en tout cas en octobre dernier, à peu près 420 000 euros de déficit. Bon, c'est pas grand-chose pour eux, tu vas me dire, mais mais bon, voilà. Et sinon, on espère aussi que le film de Gabriel Julien Laferrière ne fera pas lui de déficit. Donc il se lance dans l'adaptation de Cédric, donc je sais pas si vous connaissez.
Tu connais Cédric,
c'était une BD.
La BD, ouais.
Mais moi j'en étais fan quand j'étais petite. Et donc du coup, au cas où, je vais faire un petit résumé. Donc c'était un petit garçon de 8 ans, il me semble, qui n'était pas très bon à l'école et qui était redingue d'une de ses camarades qui s'appelle Chen. Je sais pas si tu te souviens bien. Enfin bref, son père était vendeur de tapis et puis sa mère et son grand-père très bien connus, enfin plus souvent sur le nom de Pépé d'ailleurs, son grand-père. Enfin bref, et donc du coup, certains noms ont déjà été filtrés de personnes qui reprendront. Alors, pour sa mère, ça serait Audrey Lamy. Et pour le pépé, ça serait interprété par Christian Clavier. Donc, on attend des nouvelles.
D'accord.
Et toujours à propos de papy, il y a un trio qui va prendre forme. Donc, Johnny Hallyday, Edith Michel et Jacques Dutronc qui vont apparemment faire un petit concert au niveau de la fin de l'année. Donc, ils ont pour projet de chanter ensemble. D'ici là, on aura d'autres infos. Je n'hésiterai pas à vous en communiquer. Et maintenant, l'info spéciale de Franche-Comté. Alors, c'était hier, c'était beau et c'était fun. Il y avait Gad Elmaleh qui était sur les planches de l'Axone à Montbéliard. Évidemment, tout s'est extrêmement bien passé. Je ne sais pas si vous étiez au courant.
Non, je n'étais pas au courant.
Il y avait un monde fou, c'était terrible.
D'accord. Bah, ça ne m'étonne pas.
Non, c'est vrai. Eh bien,
merci Cassandra pour toutes ces informations people. Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Et tout de suite, la chronique avec Mathilde. Sur la culture. Bonsoir Mathilde.
Salut Anaïs. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est parti pour une trentaine de condensés de culture. Ce samedi aura lieu un concert prometteur, riche en ondes sonores, avec The Young Gods. Ce groupe est à la croisée entre différents univers musicaux tels que Indus, rock, électro, new wave, metal, etc. Des groupes tels que Ministry ou encore The Chemical Brothers, ou même le boss David Bowie, les cite régulièrement comme groupe favori ou encore comme source d'influence. La première partie sera assurée par les Byzantins de Now, qui nous baladent dans un univers plutôt électro-rock. Les tarifs vont de 12 à 18 euros. C'est ce samedi 22 à 20h30 au Moloko. Place à la grâce avec la compagnie Taoub, rencontre entre une tradition entre tradition acrobatique populaire marocaine et le nouveau cirque occidental. Le fil conducteur de ce spectacle se tisse autour des relations humaines et l'idée de confiance en l'autre. C'est ce samedi à 20h à la Malte de Sochaux. Les tarifs varient entre 18 et 20 euros. Cirque toujours avec les étoiles du cirque de Pékin qui viendra raviver vos petites étoiles dans les yeux. Avec leur nouveau spectacle, L'Empereur de Jade. Ce conte ranime l'une des légendes chinoises les plus connues puisqu'il narre la naissance du zodiaque chinois. C'est à l'Axone que cela se passe à 20h. Les tarifs varient de 38 à 50 euros. En élargissant nos frontières et pour nos étudiants expatriés du week-end, je vous propose le blues de Catfish à la Rodia de Besançon demain soir, ou encore Dijon maintenant avec des Bretons du hip-hop et du beatbox avec Under Control, The Boxset et Chrisman à la Vapeur ce 22 mars. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.
Et bien des sorties théâtrales, musicales. Merci Mathilde, à bientôt.
L'assiette du jour.
Et nous voilà de retour avec Méline pour
bonsoir
une nouvelle
Anaïs.
Recette. Bonsoir.
Alors, pour rebondir sur la rubrique de Margot, ce soir, on va faire des mini-pizzas. Mmh. Alors, c'est une recette pour 4 personnes avec un temps de préparation de 10 minutes et de cuisson de 15 minutes. Il vous faut donc de la pâte à pizza, naturellement, du concentré de tomate, du jambon blanc ou du blanc de poulet ou de dinde, comme vous le souhaitez, une boîte de champignons et du fromage râpé. Pour commencer, faire chauffer la sauce tomate, mélangez-la avec de l'eau en y ajoutant du sel et du poivre. Étalez la pâte à pizza et ajoutez la sauce, le jambon, les champignons et le fromage. Mettez-y au four 5 à 10 minutes. Laissez ensuite refroidir, coupez la pizza en petites parts. Il ne vous reste plus qu'à les servir. L'astuce de la recette, c'est de remplacer la pâte à pizza par du pain de mie.
Bonne astuce.
Et voilà.
Merci Méline.
Bonne soirée.
Bonne soirée. Et tout de suite, Julien Pelletier avec sa chronique musicale.
L'émission musique.
Il y a presque un mois, alors que j'étais assis sur cette même chaise, je vous ai naturellement présenté Arcade Fire et Libido Fuzz. L'espoir, la vie, le désert, la route. Désolé, j'ai un peu couru. Je vais d'abord me reposer. Vous avez pu reconnaître Ozone, qui fut un moyen évident de décrire la situation particulière dans laquelle se trouve notre culture musicale, mais surtout Jim Morrison. Lorsque je pointais du doigt mon camarade réalisateur qui lançait instantanément les chansons, parce qu'il fait quand même du bon boulot, il m'arrivait fréquemment d'être empli de joie, de gaieté, de bien-être et de satisfaction à l'idée de passer une musique différente de Daft Punk, Pharrell Williams ou Miley Cyrus à la radio, plutôt que ce lecteur... Ou plutôt, ce lecteur flash et blablabla, génération oubliée. Ainsi, les personnes présentes dans le studio m'ont vu danser sur ma chaise, mon casque sur les oreilles. Cela n'a malheureusement pas plu à mon professeur et responsable, puisqu'il m'a repris à l'ordre et m'a demandé de cesser ses activités illégales et sauvages, de peur que je salisse la chaise et la détruise à jamais. Selon moi, il me restait deux solutions, écouter mon professeur ou enfreindre la règle. Étant un brin provocateur, mais tout de même respectueux, j'ai décidé de ramener ma propre chaise, afin d'être libre de jouir de plaisir à l'écoute de ces artistes. Je trouvais cette petite précision nécessaire, certaines personnes ayant vu un personnage singulier débarquer dans les studios avec une chaise bleue sous le bras, alors qu'en général je ne venais qu'avec ma chronique et mon couteau. Vous savez tout, et à compter de cet instant et à chaque lancement de chanson, vous pourrez m'imaginer danser tel un idiot, puisqu'il me faut maintenant rentabiliser mon effort, et cela vous fera, avec un petit peu de chance, bien marrer. C'est Black Rebel Motorcycle Club, Soma Radio.
I fell in love with the streets and say
venez d'écouter Black Rebel Motorcycle Club, que j'appellerais aussi la plus belle chose qui soit arrivée au rock'n'roll ces 20 dernières années. Cela peut sembler exagéré parce que c'est vrai que One Direction c'est quand même un peu le rock et c'est pas si mal, mais j'espère que nous arriverons à un accord commun quant à la définition de cette entité mystérieuse, sombre et insaisissable. Je parle bien sûr du premier groupe, One Direction n'étant qu'une chiasse auditive, la décadence de la musique au profit des institutions industrielles. C'est à San Francisco que Peter Hayes et Robert Levon Bean se rencontrent en 1995 alors qu'ils ne sont que lycéens. Ils rejoignent chacun des formations différentes en espérant fonder leur propre groupe dès que possible. Robert Levon Bean, le fils de Michael Bean du groupe The Call, fut bassiste des Beagles. Donc ça fait beaucoup de noms, j'espère que vous suivez toujours. Il utilisait alors le pseudonyme de Robert Locke pour se démarquer de l'influence de son père. Plus tard, et avec le Black Rebel Motorcycle Club, il choisira de s'appeler Robert Turner. Peter Hayes, lui, a œuvré avec le Brian Johnston Massacre. Ce groupe mené par Anton Newcombe, musicien génial, drogué intrépide, leader déterminé, a vu passer des dizaines de membres différents qui ont à la fois collaboré au mouvement mais aussi saboté celui-ci, pour des histoires de drogue, de filles ou toute autre histoire débile qui peut monter les humains les uns contre les autres. Un documentaire, nommé Dig, raconte leur vie et mésaventures, ainsi que celle des Dandy Warhols, autre groupe de la scène underground mené par Courtney Taylor. Nous pouvons aussi imaginer une rencontre autour d'une bière si l'un d'entre vous est intéressé par des discussions longues, débats musicaux et paroles pseudo-philosophiques. Si je me permets une parenthèse pour parler du Brian Johnston Massacre, c'est parce que l'homme fou qu'est Anton Newcombe le décrivait comme un des plus prolifiques de la scène underground des années 90. Et Dieu sait que j'adore le mot underground. Brian Johnston Massacre est un océan amer de psychédélisme et de formes complexes, autant que le sont les personnages infiniment étranges qui le composent. Nevertheless, piste 5 de Bravery Repetition Unknowns fait partie de ces belles choses qui nous tombent dessus, alors qu'on pensait arriver devant une énième porte fermée. C'était Nevertheless de Brian Johnston Massacre. Et comme je le disais tout à l'heure, Peter Hayes fut l'un des membres de ce groupe, voyageant avec eux et leur délire psychédélique comme de nombreux musiciens, et quittant le groupe quelques années plus tard comme de nombreux musiciens. En 1998, Peter Hayes, Robert Turner et Nick Jago forment un groupe au nom mystérieux, difficile et long à prononcer, qui provient d'un film de Benedek, L'équipé sauvage. Marlon Brando qui interprète Johnny Strabler mène une bande de motards appelée Black Rebel Motorcycle Club. Les rebelles noirs en français. Le groupe enregistre une démo de 16 pistes qu'ils presseront à 500 exemplaires, tous vendus, lors des concerts. Après un passage radio à KCRW, je le dis en français parce que c'est un peu difficile sinon, ils sont remarqués par la BBC Sheffield qui nomme leur démo « Enregistrement de la semaine ». Lorsque Noël Gallagher, co-leader d'Oasis, l'écoute, il n'hésite pas à déclarer au magazine Mojo que Black Rebel Motorcycle Club est son nouveau groupe préféré. La presse les place aux côtés des Strokes ou Kings of Leon autour du renouveau du rock. Il signe sur le label Virgin Records en mars 2000. Après une tournée américaine aux côtés des Dandy Warhols, qui partageaient l'affiche sur le documentaire Dig avec Brian Johnston Massacre, souvenez-vous, le groupe entre en studio et enregistre un album éponyme qui paraît en 2001. Deux ans plus tard, il sort Take Them on Your Own. La deuxième piste s'appelle Six Barrel Shotgun. Ode au mysticisme et complainte philosophique, le soleil du dimanche n'a jamais brillé sur moi. Voilà comment l'entité mystérieuse inscrit son style, sombre, noir et obscur sur la face avant du rock, en tenant une veste en cuir du bout des doigts et en disant « voilà ce qu'on fait au XXIe siècle avec une basse, une guitare et une batterie. On n'a pas besoin de vos merdes électroniques, de vos buzz à la con pour créer quelque chose d'extraordinaire et prouver qu'on existe. Parce que le divin est en nous, parce que nous sommes des entités abstraites qui caressons la mort du bout des doigts en lui disant toujours un peu plus, d'aller se faire foutre. » Tout en lui promettant qu'on arrive, qu'il faut juste nous laisser quelques jours, quelques heures pour accomplir notre art et parfaire nos vies. Je suis Julien Pelletier, j'espère que vous serez le prochain à citer Jim Morrison de manière habile et implicite, comme je viens d'essayer de le faire. Parce que lui disait « Ô grand créateur de ce qui est, accorde-nous une heure de plus pour accomplir notre art et parfaire nos vies. »
Upon the floor, with half the gun, you'll hear them say, with smiles meant to cry, as they wind a watch strapped on a wrist and quickly look away. And four and six have come and gone five times before they're seen, and upon the lips of everyone, a curse they've never dreamed. Yeah, upon the lips of everyone, a curse they've never dreamed. It's a complicated situation. It's a complicated situation, mama. I'm a complicated situation. Sacrifice, they say, with crippled grins. The eyes of youth must lose their way and stumble he within. So the sleeping children were awoke in time to haze their eyes. So it's never known on which they choked with books of olden time. So it's never known on which they choked with books of olden time. It's a complicated situation. It's a complicated situation, mama. I'm a complicated situation.
Il est maintenant 19h passé et notre émission touche à sa fin. Nous vous remercions d'avoir écouté ma radio et de votre fidélité. Merci également à toute l'équipe éditoriale et technicienne, Frédéric Geoffroy, Hassan Balou et Antoine Bachong. La prochaine fois, vous aurez rendez-vous avec Nicolas Guidici, le mercredi 7 mai. Et je vous rappelle que nos émissions déjà diffusées sont en podcast sur le site www.radio.btsaudiovisuel.com. Vous pouvez donc les réécouter, mais aussi les enregistrer sur votre ordinateur. Bonne soirée à tous et à bientôt sur ma radio.
Ma radio.